jusqu'à 9h30. C'est que la Mauricie se lève avec Marc-André Pelletier.
À 7h20, on rejoint Lise Ravary. Allô, Lise.
Hello, hello, hello.
C'est notre dernière ce matin.
Je sais.
J'espère que tu sèches tes pleurs.
Oui, justement, je vais te parler de ça dans 2 minutes.
Ouais, c'est vrai. Écoute, on va y venir, effectivement.
Ouais, commençons. Oui, on a de graves nouvelles à annoncer dans ce domaine-là.
Ah oui, il va falloir essuyer le revers dans ce côté-là.
Absolument. Absolument. D'ailleurs, aussi, avec votre événement formidable de la fin de semaine, entre le maire et Michel Barrette aussi, oui. Ils auront peut-être besoin, eux aussi, de quelques papiers mouchoirs pour sécher leurs pleurs après avoir... je sais pas lequel qui va finir par tondre le gazon devant l'hôtel de ville, mais je trouve ça très drôle.
Ah ouais, c'est excellent, honnêtement. Là, puis ce que je dis depuis le début, c'est que tu sais, il y a le logo de notre station qui va être sur la voiture du maire, là, sur le capot sur le toit. Ouais, ouais. Sur le capot et sur le toit. Donc, la question que je pose souvent à travers ça, c'est dans quel état va être notre logo à la fin de la course? Mais ça, on va le savoir en fin de semaine.
On va suivre ça.
Débutons ce matin, Lise, avec une espèce de conflit. En tout cas, c'est curieux ce qui se passe de ce côté-là entre le gouvernement et Hydro-Québec pour... écoute, la raison m'échappe complètement.
Ben c'est un projet d'éolienne, en fait, un parc d'éolienne en territoire Innu. Donc sur la base Côte-Nord. Et c'est un projet qui n'a pas commencé à produire, mais dont on parle depuis quand même un bon bout de temps. Et le président d'Hydro-Québec, Éric Martel, pose un geste, comment dirais-je, autonomiste face à son patron politique. Parce que c'est sûr qu'Hydro-Québec... en plus de produire de l'électricité, n'est-ce pas?
Oui.
Aussi, de temps en temps, produit des votes pour certains gouvernements. Et c'est quand même un instrument politique, même si tout le monde va dire non, pas du tout. Mais on sait que, surtout depuis l'arrivée des énergies vertes, et en particulier des éoliennes, qu'il y a des projets d'éoliennes un peu ici, à gauche et à droite, alors que dans le fond, on n'en a pas vraiment besoin parce qu'on a des surplus. Mm-hmm. Et puis, bon, on peut pas dire qu'on manque de ressources hydroélectriques, mais c'est bon pour l'emploi en région. Hein? On fabrique des éoliennes, on installe des éoliennes, on entretient des éoliennes, et ça fait travailler des gens, et c'est pas une mauvaise chose, sauf que quand ça se fait à perte, je pense que les contribuables sont en mesure de se poser des questions. Et dans ce cas-ci, en plus, comme c'est en territoire autochtone, eh bien, les autochtones sont supposés recevoir des redevances. Mmh. Et là où M. Martel s'insurge, c'est qu'il dit que les analyses qui ont été faites pour dire que les Inuits recevraient 500 000 $ par année, ça tient pas la route.
Ah bon?
Que ça n'a pas de bon sens. C'est pas vrai. C'est pas possible qu'il y ait des gens qui beurre épais, comme on dit.
Okay.
Alors, fait que là, le ministre de l'Énergie, Pierre Moreau, il est pas content parce que normalement, le président d'Hydro-Québec, il fait coucouche-panier quand le gouvernement se fâche. Mais là, M. Martel ne fait pas coucouche-panier. Et continue à dire « ça n'a pas de bon sens ce projet-là, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens ». J'ai bien hâte de voir comment ça va finir. Il y en a qui disent que M. Martel pourrait être congédié, j'en doute. Pas à ce moment-ci, à 8 semaines d'élection. Mais le torchon brûle et on n'est pas habitué à voir ça. Et on aimerait bien, tout le monde, je pense, et je suis certaine que les Inuits, la même chose, connaître la vérité, c'est quoi les vrais chiffres, c'est quoi les vraies perspectives, et on a vraiment l'impression qu'on est dans le cirage total, on le sait pas. Puis on haït bien ça.
Ouais, c'est ça. Puis à quelques semaines de l'élection, tu le mentionnes, ça va être assez compliqué, puis en même temps, Je sais pas. Tu sais, ça pourrait avoir un impact autant négatif que positif si quelqu'un prenait une décision là-dedans, mais tout simplement le garder, de toute façon, il va falloir y verser une compensation de 500 000, lui aussi, sûrement.
Oui, de toute façon, il y a probablement ça. Mais quand le gouvernement se met dans des projets de développement économique, les intentions sont toujours bonnes. Mais tu sais, on peut pas oublier des catastrophes comme la Gaspésia, par exemple. Même la cimenterie de Port-Daniel, qui était vraiment un projet là, 100% politique. On ne sait pas. Là, ils viennent de perdre le deuxième PDG en quelques années. On ne sait pas trop ce qui se passe dans ce coin-là. Bon, les gens du coin travaillent, oui, mais c'est rare que finalement, à part les grands projets d'hydroélectricité, d'Hydro-Québec, qui fonctionnent très bien, il y a plein de petits projets comme ça qui ont... Je me souviens aussi de la cartonnerie de New Richmond dans Gaspésie, okay, qui avait fermé ses portes et le gouvernement avait mis des millions pour essayer de la faire redémarrer. Et puis, ben les millions se sont retrouvés à l'eau puis les gens de New Richmond, pas de job.
Ouais, mais c'est souvent
alors,
ça.
Alors, voilà, j'aimerais être plus optimiste, mais en tout cas, moi, personnellement, là, j'ai choisi mon camp, je choisis le camp d'Éric Martel d'Hydro-Québec.
Voilà. Maintenant, écoute, ce sera
voilà
pas simple.
Dans...
Ben oui, c'est ça. On avance encore d'un pas dans l'humanité ce matin parce que ce sera pas facile dans les prochaines semaines pour les auditeurs et auditrices. Il y a la bouffe qui augmente, il y a le gaz qui augmente, puis maintenant, il y a le prix des essuie-tout puis du papier de toilette. Ah,
ben oui.
Oui.
Tu vas me dire ça pourquoi? Ça m'a fait rigoler quand j'ai vu ça. Je le sais, c'est pas drôle. Hein?
Bon, mais non, mais encore... tu es aussi bien en rire, là, rendu là.
Oui. C'est un autre assaut sur notre porte-monnaie. Mais bon, c'est vraiment pas tous les jours que le prix du papier de toilette fait la manchette.
Oui. Mais pourquoi,
en fait,
hein?
Ben, parce que ça a l'air que l'augmentation va être quand même assez salée. En tout cas, pour les producteurs, chez Kroger, on parlait de une augmentation de 23% de la pâte à papier, là, en fait, la matière première. Plus une augmentation des coûts de transport, ça, pourquoi, je ne sais pas. Et tout ça fait que ils vont, en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'ils vont avoir de la misère à offrir des rabais. Parce qu'on sait, le papier de toilette, est comme presque toujours, qui achète du papier de toilette qui n'est pas en spécial? Faut être mal pris.
Oui, c'est ça, faut être mal pris. Faut être... J'aurais dit d'autres choses, mais ce serait un jeu de mots un peu déplacé.
Non, c'est correct, on comprend. Donc, la plupart des gens, on le sait, les grandes chaînes, les pharmacies, tout ça, font des gros rabais, puis au lieu de coûter 12$ pour 12 rouleaux, on a ça pour 4,99$. Bon, tout le monde connaît la passe. Alors, j'ai comme l'impression que il va peut-être y avoir moins de rabais. Mais personne ne s'attend vraiment à ce que le prix des essuie-tout du papier de toilette augmente de 23%.
Non.
Ça serait quand même assez spectaculaire.
Et tu sais, je regarde
la... Maintenant, on est averti, mettez vos sous de côté.
Oui, c'est ça.
Ça s'en vient cet automne. Peut-être qu'il y a un politicien qui va nous promettre pour les élections de garder le prix du papier de toilette sous la barre des 4,99.
En Ontario, c'est la bière à 1$, puis au Québec,
c'est
tout ce qu'il faut pour s'essuyer.
OK, bonne. Ooh.
Mais tu sais, je regarde ça, le président de Cascade, là, parce que Cascade et Kroger là, qui sont interpellés là-dedans, notamment chez nous, le président de Cascade qui dit que c'est un marché très compétitif. Tu sais, je comprends pour les prix et tout ça, là, mais ça me fait quand même un peu sourire. C'est un marché compétitif que celui d'essuyer.
Ouais. Puis surtout que, vu comme ça, il y a comme deux entreprises, Kroger et Cascade.
Ouais. Bon.
Mais c'est dans les marques et tout ça. C'est sur le terrain de la vente au détail que ça joue dur dans le marché du papier de toilette.
Oui, ben écoute, c'est ça pareil.
Rififi dans le papier de toilette, je vois les... un film d'action avec Arnold.
écoute, je ne sais pas si je suis découragé ou sarcastique ce matin par rapport à ça, mais bon, l'indignation du jour, c'est...
Ben, Sophie Durocher a sorti une affaire cette semaine qui est un peu passée sous le radar, mais... Pas pour moi. En fait, il y a pas mal de monde aussi, je pense. Il y a même une pétition qui circule. Gap, hein, le magasin là, de vêtements, oui. Ils ont une division pour enfants. Leur campagne publicitaire pour la rentrée scolaire montre deux petites filles qui ont à peu près 9-10 ans et une des deux porte un foulard islamique.
Ah, oui, OK.
Alors, Sophie a trouvé ça ahurissant pour toutes sortes de raisons. La première, c'est que le message que Gap envoie à toutes les petites filles musulmanes, c'est que si tu portes pas de foulard, t'es pas une bonne musulmane. C'est comme si c'était la job de Gap de faire ça dans la vie. D'autre part, même chez des gens très pieux et pratiquants, la norme, c'est pas de foulard avant la puberté. Alors, cette petite fille-là, elle a vraiment pas l'air d'être rendue là dans la vie. Évidemment, on pourrait mettre l'aspect de quoi je me mêle.
Ouais.
C'est quand même un symbole, non seulement religieux, mais politique. Et c'est quiconque en doute, faut parler, réfléchir aux femmes en Iran, par exemple, qui se font emprisonner parce qu'elles ne veulent pas le porter. Puis dans le monde, il y a des femmes qui meurent parce qu'elles ne veulent pas le porter. Même si c'est arrivé au Canada il y a une dizaine d'années, une jeune fille de 16 ans qui a été étranglée par son père parce qu'elle refusait de se couvrir les cheveux.
Ouais.
Alors, quand ça devient un instrument marketing, un accessoire mode, je comprends l'indignation de Sophie Durocher face à ça, et puis j'avoue que je la partage. Alors évidemment, ces gens-là disent oui, mais on veut refléter la diversité. Parfait, c'est bien, c'est vrai, puis la réalité, c'est qu'il y a des femmes qui en portent, puis non, n'est pas la question. Mais c'est quand la dernière fois qu'on a vu, par exemple, une personne handicapée dans une annonce?
Ah ouais.
Non, mais tu sais, tu veux faire de la diversité, non?
Ben, c'est
souvent.
Ça. Non, c'est ça, c'est souvent. T'sais, on en choisit un dans la gang, dans la diversité, puis c'est celui-là qu'on met de l'avant.
C'est généralement celui-là qu'on met de l'avant. Mm. Et je pense que c'est vrai que c'est, dans un certain cas, dans une certaine façon, de banaliser ce qui est, aux yeux de plusieurs, probablement le plus important symbole de ce qu'on pourrait appeler peut-être un islam rigoureux.
Ouais. Et terminons... excuse-moi, Lise.
Non, vas-y.
Okay. J'allais dire, terminons la semaine et la chronique avec une petite réflexion.
Ouais. Le Canada envoie des milliards chaque année en Arabie Saoudite pour du pétrole. Pas tant que ça, mais à peu près 121 000 barils par jour, à peu près 50 $ par jour, pour faire votre calcul. C'est à peu près 15% de la consommation canadienne. Ça va s'en va presque tout au Nouveau-Brunswick chez Irving Oil. Et puis quand notre deuxième fournisseur, c'est les États-Unis, où présentement la plupart des Canadiens sont tout à fait en accord avec les politiques de M. Trump. Mais pendant ce temps-là, on a du pétrole dans l'Ouest à pas savoir quoi en faire.
Ouais.
Et c'est pour moi, c'est à chaque fois qu'on tombe sur un os comme ça, je me dis, entre importer, entre envoyer des milliards par année à des gens qui... Est-ce qui s'est passé hier au Yémen d'avoir bombardé un autobus scolaire?
Rempli d'enfants.
Puis nous autres, on leur fait des chèques, envoyez-nous le pétrole. Puis c'est tellement important, le pétrole, que de toute façon, même avec la chicane entre le Canada et l'Arabie saoudite, les Saoudiens nous ont assuré que les livraisons de pétrole ne seraient pas du tout affectées.
Ben oui, c'est ça, ils nous laissent, les diplomates, non, les médecins, non, mais le gaz, le pétrole, là,
il n'y a pas de problème. Tu sais, quand on refuse des projets pétroliers, quand on refuse l'exploration, quand on refuse des pipelines, je comprends les raisons, environnementales, mais vraiment, là, si on s'imagine que demain matin, on va pouvoir vivre sans pétrole, on se trompe. D'abord, il y a des endroits, moi je vis en région rurale, et sérieusement, là, au rural, avant qu'on n'ait plus besoin de pétrole, c'est pas demain la veille.
Non, effectivement.
Hein? Alors, en ville, c'est une chose, transport en commun, dans mon coin, c'en est une autre. Alors, juste une réflexion.
Oui.
Juste une réflexion. est-ce que ça serait mieux qu'on utilise notre pétrole au lieu d'en importer d'endroits qui dont les pratiques nous font hurler? Et sauf que quand c'est le temps de faire des achats d'or noir, ben là, on ouvre le carnet de chèque et merci, monsieur Saoudi.
Ouais, c'est là qu'il faudrait se tenir debout.
C'est une, je pense que c'est une question qui vaut la peine d'être posée.
Oui, absolument, absolument. Puis souvent, je dis que Justin Trudeau fait face à certains tests. Dans ce cas-ci, là, tu sais, je serais tenté de dire, ben ouais, tu veux nous prendre nos médecins, les diplomates, puis les étudiants, puis avoir donc, ben gardons ton pétrole chez vous, tiens.
Ouais, moi aussi j'aurais tendance, mais
c'est un peu radical,
on va
là,
dire
mais bon.
Les affaires, c'est des affaires, et ça n'a rien à voir avec la politique. Il faut garder les deux séparés. Faudrait peut-être dire ça, on va venir au premier sujet, au ministre Moreau, dans son évaluation du projet d'éolienne.
Ah, écoute, on est un peu décourageant ce matin, mais bon. Hein?
Regardez les choses telles qu'elles sont. Moi, je trouve ça, à la limite, plus réjouissant que d'imaginer des futurs qui n'existeront jamais.
Parfait. Mais effectivement, tu sais, faudra s'y faire, je pense bien. Lise, merci beaucoup pour cette collaboration dans les dernières semaines. J'ai beaucoup apprécié. J'espère que toi aussi.
Moi aussi, j'ai adoré ça. J'ai adoré parler aux gens de la région de Trois-Rivières. Et puis, encore une fois, je vous souhaite un excellent Grand Prix et je vais suivre ça. Moi, je veux absolument voir la course.
On te tient au courant, ben oui. Merci, Lise. Bon week-end.
Merci. Bye-bye.
À bientôt. Lise Ravary, qu'on peut lire dans le Journal de Montréal.